Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Avec des grandes voix qui sont là, à mes côtés, installées dans ce studio jusqu'à 19h. Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bienvenue. On est ensemble pendant une demi-heure. Et vous, auditeurs, vous êtes là aussi, j'espère, au 39-21 pour les interroger, interagir avec nous tous. Avec, quand même, hein, il le disait, Sébastien Krebs dans son journal, la Macronie rattrapée par les affaires. Oh bah dites donc, Michel,
Vous savez, la justice, ça chemine lentement, mais sûrement.
Oui. Alors l'affaire... Lentement, hein, j'insiste sur le lentement, on va y revenir.
Cette affaire-là, l'affaire de M. Ferrand...
Ferrand, pour commencer.
A commencé donc il y a 2 ans. A commencé il y a 2 ans. Bon, ben 2 ans, c'est le cheminement. Alors bon, vous connaissez les étapes intermédiaires. Oui. Il y a eu d'abord...
Une information judiciaire pour crise d'égal intérêt, un non-lieu, etc.
Enfin, pas un non-lieu d'ailleurs. Une affaire classée sans suite, sous réserve, parce qu'on parlait de prescription. Après quoi, il y a eu la plainte de l'association Anticorps.
Voilà.
Et du coup, des juges ont été désignés. Ça chemine, donc voilà.
Et cette affaire qui quand même coûte sa place, il faut le rappeler, à Richard Ferrand, au gouvernement. Accessoirement.
Ça lui a coûté, effectivement, sa place au gouvernement. Entre-temps, il avait quand même touché un beau lot de consolation avec la présidence de l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, il est... disons tout de suite, comme toujours, il est présumé innocent. Mmh. Et on attendra de savoir, quand il sera sorti, s'il est mis en examen.
Il est entendu depuis ce matin.
Voilà, depuis 10 heures, en gros, maintenant. Hein. Mmh. S'il est mis en examen. S'il est mis en examen, ça posera un petit problème. Bon.
Ah, bah justement, c'est toute la question, Michel Cotta. Ouais. Si on avance vers... Évidemment, il est présumé innocent. Ce qu'on regarde, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si, évidemment, il est mis en examen. Avant lui, d'autres, sans être mis en examen, François Bayrou, on va y venir dans un instant, puisqu'il est aussi dans le calendrier.
Il est président de l'Assemblée nationale.
Exactement.
Donc, il tient sa légitimité de l'Assemblée. Mais enfin, ça sera difficile quand même.
Rugy était parti.
Moi, je voudrais un peu dire ce que je pensais. J'ai tout de suite pensé que le gouvernement donnait des verges, que le président donnait des verges pour se faire battre lorsqu'il a nommé Sylvie Goulard. Il était évident que Sylvie Goulard, qui a été prise, alors la première dans cette histoire présumée d'emploi fictif...
Elle a été entendue hier, elle aussi.
Non, mais il est évident qu'à partir du moment où elle est nommée quelque part, on dit que la justice va à son cours, mais quand les inconnus deviennent des quand les hommes politiques deviennent des inconnus, la justice n'insiste pas trop. Mais quand d'un seul coup... ils reviennent comme Sylvie Goulard, il est évident que Sylvie Goulard reviendrait, et avec elle, tout le Modem.
Et avec elle, tout le Modem. Donc, effectivement, le Modem, on en parle, Mickaël Darmon, parce que sur la liste, il y a aussi Mickaël Darmon, j'allais dire, il y a aussi François Bayrou, aujourd'hui, entendu.
Lequel
n'a jamais été entendu avant. Hein. Ça fait 2 ans qu'il attend d'être entendu, personne ne veut rien de
voilà. Et demain, c'est au tour de Marielle de Sarnez. Là, on est dans, quand même, il faut préciser qu'on est dans une toute autre affaire. Ils sont convoqués, eux, pour une histoire d'assistant
parlementaire, absolument.
Voilà.
Qui aurait d'emploi fictif, d'assistant parlementaire à Bruxelles, qui aurait travaillé donc en réalité pour le parti et non pas produit pour l'Assemblée européenne. Évidemment, c'est encore trop tôt pour le dire, puisque les auditions se déroulent. Et c'est vrai que l'on peut remarquer que la nomination de Sylvie Goulard a déclenché ces auditions. Est-ce que ça déclenche les auditions pour que finalement, les dossiers soient clos et que là, au fond, les autorités policières, judiciaires terminent la tête haute en disant, voilà, on a fait, on a terminé et maintenant, ils peuvent revenir aussi en politique. Ça, on le verra bien. En tout cas, la coïncidence est patente. Et concernant Richard Ferrand, là aussi, le dossier était dépaysé avec la plainte anticorps.
Bien sûr.
Évidemment, la justice fait son travail à son rythme, mais en
peut-être le problème.
Ça vient coïncider avec la rentrée parlementaire.
Oui, mais c'est ça.
On est rentré il y a 3 jours.
C'est pour ça qu'il y a quand même des coïncidences. Donc, tout ça qui...
Mais il n'y a pas de coïncidence.
On a
suffisamment d'expérience des 30 dernières années, il n'y a pas de coïncidence. Les juges n'aiment pas qu'on vienne. Ils ont l'impression qu'on les provoque un peu quand quelqu'un qu'ils ont un peu...
Ils
examinent dans le collimateur, etc. Tout d'un coup, on donne une promotion à cette personne et ils disent, oh là là, puisque c'est comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir.
Non mais
et
attendez, c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a peut-être quand même à se poser la question du temps médiatique et du temps judiciaire. Et on se pose la question juste après. Et au 39-21, j'espère que vous allez réagir vous aussi.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Grande voix que vous pouvez interpeller dès maintenant au 39-21 en direct, 50 centimes la minute. Oui, on vous parle des affaires en Macronie au moment de la rentrée parlementaire. Il y a d'un côté Richard Ferrand, entendu depuis ce matin, 10h par la justice à Lille. Dans le même temps, François Bayrou, entendu lui par les policiers dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du Modem. Affaire qui traînait, hein, vous l'avez rappelé, Gérard Carrérou. Il avait donc était bien sûr obligé de quitter le gouvernement. Je voulais aller avec vous, Mickaël Darmon, sur l'aspect quand même, le temps judiciaire, le temps médiatique et le temps politique en quelque sorte. Parce qu'on se souvient, départ de François Bayrou, départ de Marielle de Sarnez, très vite. Et puis là, on est sur Richard Ferrand dans un moment où l'affaire, elle date de 2011. Il est entendu encore aujourd'hui, 2011, c'était il y a 8 ans.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette affaire, elle démarre avec le quinquennat Macron, hein, l'affaire Ferrand. Hein, oui. Et elle vient en fait immédiatement télescoper la première loi, le premier acte, le premier axiome du nouveau président Macron à l'époque, c'était de dire « je changerai les usages, les modes de fonctionnement, la démocratie ». Et ce sera la première loi du quinquennat, portée d'ailleurs par l'éphémère garde des Sceaux Bayrou, qui n'a pas pu rester parce qu'il ne pouvait pas la porter, mais parce que Sylvie Goulard était partie à son corps défendant. Absolument. Bref, elle avait obligé tout le Modem à partir. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des retrouvailles, je dirais, avec ce Modem qui a dû quitter le gouvernement sans le vouloir. Un Richard Ferrand qui a, au fond, marqué dès le début du quinquennat avec son affaire un coin dans le propos nouveau du président Macron. Et une fois de plus, ça vient, je dirais, polluer une rentrée qui s'est voulue extrêmement huilée, très scénographié, on l'a encore vu hier avec le président Abonneuil, qu'il y a. Et on a le sentiment que ça va être tout le temps comme ça, en réalité.
Mais vous parlez du temps judiciaire et du temps politique.
Bah oui. Regardez, et du temps médiatique aussi.
Et du temps médiatique.
Qui va très vite.
Regardez l'affaire Fillon. L'affaire Fillon n'a toujours pas été jugée. Mm-hmm. Le président, il était candidat. Il n'a plus été candidat.
Bien sûr.
Et puis, enfin, il a été candidat, mais il était...
Parce que l'enquête est partie en 48 heures.
C'est parti à toute vitesse. Ouais. Et 2 ans après... Où est-ce qu'on en est? Il y a eu quelques auditions, mais on attend.
Quand on pense que le Modem, il y a eu une perquisition au Modem, mais les leaders du Modem n'ont jamais été entendus. Ils le sont aujourd'hui. Alors, il ne faut quand même pas présumer de ce qu'ils vont, dire en sortant. Aussi,
bien entendu, mais il y a toujours une histoire d'image. On va aller sur l'image dans un instant. Juste, Kevin est en ligne avec nous. Mickaël, je vous donne la parole juste après. Kevin qui nous appelle de Nantes. Bonsoir à vous. Kevin, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Il y a le calendrier qui se télescope, mais on est dans une présomption d'innocence, dans tous les cas.
Oui, et je pense qu'on n'est pas sur des affaires en effet gravissimes. Moi, je pense que le péché originel, c'est qu'on a là un gouvernement et même un président de la République qui ont été élus, comme le disait Coluche, en promettant de laver plus blanc que blanc. Mmh. Et finalement, dans la réalité, ils ont juste lavé blanc. Et du coup, ça paraît gris clair. Et je pense qu'il y a pas mal de gens là, qui n'ont pas voté pour le projet d'Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté parce qu'il y avait la promesse d'un nouveau monde. Et on voit bien que ce nouveau monde, en fait, il n'existe pas. Puisqu'on a juste rebrassé pas mal de personnalités politiques qui étaient là depuis quelque temps. On a mis quelques nouvelles personnes, mais finalement, on voit qu'on a toujours ces problèmes d'affaires qui sont pas grave, enfin, on n'est pas sur l'affaire Cahuzac, hein, dans le fond, clairement, mais dans la mesure où il y avait cette promesse d'être vraiment hyper transparent et de faire la politique autrement, et bien aujourd'hui ça fait tâche.
C'est ça, qu'on peut dire que François Bayrou et Marielle de Sarnez ont payé par avance quand même.
Oui.
En abandonnant le gouvernement. François Bayrou, aussi qui était lui porteur de cette réforme,
la moralisation de la vie publique,
qui avait fait campagne là-dessus.
Exactement.
C'est vrai que c'était douloureux. Donc ils ont été punis avant même que commencer.
Exactement. Merci beaucoup, Kevin. Oui, Mickaël.
Oui, je voudrais rebondir et prolonger ce que disait Michel tout à l'heure sur effectivement l'irruption de Sylvie Goulard sur la scène et qui a l'air de déclencher tout cela. Un peu dans le sous-texte, ce qu'on m'expliquait un petit peu à l'Élysée le jour où elle allait être nommée, vraiment le même jour, on me disait en fait, elle a expliqué aussi, elle nous a expliqué, disait-on à l'Élysée, que son affaire est terminée. Du côté de l'Élysée, il semble avoir été un peu convaincu de cela, sans dire qu'on a vérifié.
D'abord, c'est possible.
Deux, ça peut être aussi déclenché, comme on le disait, l'ire des juges qui n'aiment pas que l'on décide à leur place, qu'éventuellement on le fasse savoir, et qui, au fond, font une petite piqûre de rappel avant de l'envoyer devant ses pairs, où là, l'audition devant les députés européens risque d'être aussi assez acérée, assez ardue, parce qu'effectivement, ils ont aussi quelques griefs à son encontre.
Mais qu'est-ce qu'on se dit globalement qu'en termes d'image, la délicate question de l'image, on est à 7 mois des municipales. Non, Michel hausse.
Oui, parce que l'image, comme le disait très bien notre auditeur, c'est pas des fautes graves.
Oui, mais c'est des fidèles de la Macronie.
Graves ici.
C'est des
piliers.
Oui,
mais
c'est.
Non, mais attendez, je parle de Richard Ferrand, précisément. En l'occurrence,
c'est vrai que c'est quand même un pilier.
C'est le faiseur de roi de la Macronie, quand même.
C'est pour ça que je trouvais que.
Et Ferrand, c'est le premier des fidèles, le premier allié.
Et je trouvais que le président aurait été bien inspiré. De laisser Sylvie Goulard vice-présidente de la Banque de France.
Oui, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il pense, il a posé comme principe dès le début que les premiers resteront les premiers et il avait toujours, il a toujours une dette à l'égard de ceux qui l'ont suivi dès le début.
Bon, on va voir dans combien de temps ça se termine. L'audition de Richard Ferrand, il est quand même depuis 10 heures ce matin devant la justice à Lille. On se reparle dans un petit instant. Il y avait une réunion de crise, vous savez, autour des propos, des banderoles homophobes dans le football. Vous allez me livrer évidemment votre vision de tout cela.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
L'homophobie dans le foot, bien entendu, on en parle ce soir parce qu'il y avait cette réunion entre les supporters ce soir, et puis représentée par l'Association Nationale des Supporters et puis la Ligue de Football Professionnel. Ça se tenait tout à l'heure, on était à la sortie justement avec Johan Lemaire, qui est lui-même joueur de foot homosexuel et qui a été licencié pour ce motif-là. Gérard Carrérou, il y a eu les propos de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. Il y a d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est aussi, lui, qui est allé à petits pas sur le sujet hier.
Il y a eu des extrêmes un peu. Le propos de Le Graët a choqué beaucoup de gens.
Pour cause.
Il allait un peu dans le sens, en tout cas certains l'ont pris comme ça, de minimiser un peu ce qui se passait. Largement sous-estimer et minimiser ce qui se passait dans les stades. Et on a eu une réaction à l'opposé du ministre, de la ministre, qui a dit clairement on ne peut pas accepter, etc. Et on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu le président de la République monter au filet. Et le président de la République a été, je dirais, entre les deux.
Ah bah il a été.
Il a parlé de discernement.
Exactement.
Il a dit on peut pas effectivement, en gros, on peut pas avoir une loi qui fasse qu'automatiquement à la moindre insulte sur un stade, on arrête le match.
Mais intraitable sur le fond.
Donc je ne vois pas ce que vont décider aujourd'hui nos supporters réunis avec nos footballeurs, si ce n'est qu'il faut faire la police dans les stades, comme ça a été fait au PSG. À un moment donné.
C'est ce qu'a dit Le Graët d'ailleurs.
Il y a quand même des supporters. Quand ils amènent des banderoles de 25 mètres de long,
c'est ça,
ils
font quand même des faits.
D'abord, comment elles entrent dans les stades, etc. Il y a des tas de problèmes techniques à regarder de près.
Donc ça va être du cas par cas, Mickaël, ça va être de la discussion, du conciliabule, c'est ça en fait.
En tout cas, pour l'instant, effectivement, l'arbitre Macron a au fond laissé entendre que le match entre les deux pouvait continuer parce que la phrase pas de fausse polémique, on se demande à qui elle s'adresse déjà. Est-ce qu'elle s'adresse à la ministre ou est-ce qu'elle s'adresse à Le Graët ? Elle est quand même assez floue
toute la déclaration.
Il ne faut pas hésiter derrière.
Cette phrase-là, c'est effectivement le point d'orgue. Non, ce qui est, au fond, à quoi on assiste aussi à la prolongation, je dirais, d'un conflit qui a commencé déjà depuis longtemps entre Noël Le Graët et la ministre des Sports. Ça avait commencé déjà lors d'un match précédent entre PSG et l'OM. On l'avait dit, c'est absolument inadmissible, ce genre de propos. Et lui, il avait répondu, il avait tancé en disant bon, c'est vrai qu'elle arrive pour la première fois dans un stade, dans les piscines, on n'entend pas ça.
Voilà. Donc, elle ne sait pas de quoi elle parle.
Quand même.
Est-ce qu'on peut distinguer l'ostracisme anti-homosexuel de l'ostracisme anti-noir, anti-arabe?
Évidemment, à mon avis, non.
C'est le même ostracisme. Alors après, qu'est-ce qu'on décide d'arrêter le match? Moi, je trouve que ça fait assez réfléchir les gens. Ça déplaît beaucoup à ceux qui sont là, aux spectateurs, mais ils n'ont qu'à faire attention. Donc, moi, je trouve quand même que l'arrêt du match se justifie, qu'il s'agisse du moment où on lance des bananes sur un noir ou au moment où on dit qu'un type est, dans le vocabulaire sportif, PD.
Absolument.
Bon. Alors, Francis, qu'est-ce qu'il en pense, Francis? Bonsoir à vous, Francis. Vous appelez de Nancy. Qu'est-ce que vous dites de tout cela ce soir? On a avancé
ou pas? Bonsoir. Oui, c'est un faux débat, c'est un leurre, à mon avis, médiatico-politique ou politico-médiatique. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des vrais problèmes, notamment, par exemple, de Ferrand et de Goulard. Donc vous avez
on en parle pendant un quart d'heure, Francis. Vous êtes branché trop tard.
Oui, non, mais vous, vous allez en parler, mais...
Ça fait la une partout.
Non, les politiques en parlent très très peu, et c'est un faux problème parce que en ayant amplifié un phénomène qui existe depuis, enfin moi je fréquente les stades depuis 50 ans, en ayant amplifié un phénomène qui était existant, sous-jacent depuis toujours, et qui est un phénomène de meute, c'est-à-dire que les gens quand ils sortent, si vous les reprenez individuellement, il n'y en a pas un qui traitera qui que ce soit enfin avec des propos racistes ou des propos homophobes. Maintenant, on a lancé un concours, un nouveau challenge, comme on en trouve beaucoup sur Internet. Ben voilà, on va trouver un nouveau challenge, celui qui réussit à faire arrêter le match.
Mais vous, vous dites, vous les voyez quand même les banderoles. Vous les avez vues dans les stades, les banderoles.
Oui, enfin, vous vous rappelez de la banderole PSG contre Lens, bienvenue aux ch'tis au moment du succès des ch'tis. Ouais, bienvenue
Michael Darmon et Michel Cotta veulent intervenir avec vous,
Francis. La question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi on n'a pas ce genre de phénomène dans les publics du rugby, du basket, du tennis.
Exactement.
Donc il y a déjà une spécificité football et ça, il faut l'admettre et il faut le voir en face. Ensuite, c'est vrai aussi que on a vu la ministre des Sports extrêmement combative sur ce sujet. Mais si on doit régler les problèmes qu'il y a dans le football, il faut aussi parler de la violence sur les terrains tous les dimanches sur le football amateur, des problèmes de communautarisme qui existent dans le football. Donc on voit qu'elle se saisit d'un sujet qui est extrêmement polémique, mais qui ne va pas régler l'ensemble des problèmes qui sont
au football. Mais c'est une question au reste des sports non plus, parce qu'on a une tentation de dire c'est le peuple, le peuple footballistique, c'est vraiment
le rugby, c'est aussi le peuple.
C'est une question des potes. Moi, j'entends très bien notre auditeur lorsqu'il dit qu'il est dans les stades depuis 50 ans. Moi aussi, presque. Mais bon... c'est vrai que ce qu'on supportait il y a 20 ans, 30 ans, quand on ne se posait pas tous ces problèmes, est maintenant devenu insupportable. Voilà, il y a une question d'époque et de mœurs.
L'antiracisme est devenu une valeur universelle qu'elle n'était pas il y a 20 ou 30 ans. On a changé d'époque. Les temps ont changé.
Oui, ça peut-être que Noël Le Graët ne l'a pas tout à fait
compris. Comme dirait Bob Dylan.
Merci en tout cas, merci à vous. Vos points de vue, c'est chaque soir les grandes voix d'Europe 1. Merci beaucoup, Michael Darmon. Votre rendez-vous, c'est dimanche de 10h à 11h, le grand rendez-vous en partenariat avec CNews. Et les échos, votre invité ?
Brice Hortefeux, député européen LR.
Bien entendu. Merci beaucoup à tous les trois. Europe 1.